Chapitre 2. Chloé. 10 jours plus tard. 10 juillet 2018. Ma grand-mère est étrange depuis quelques jours. D'ordinaire plutôt casanière, elle ne cesse de sortir. Elle prétend avoir besoin d'air, souffrir de la chaleur, et il y a sûrement un peu de ça. Nous sommes en plein cœur de l'été, il fait près de 30 degrés à Paris, et elle refuse obstinément d'ôter ses bas, jugeant inconvenant de sortir jambes nues, alors je veux bien croire qu'elle étouffe. Mais je sens qu'il y a autre chose, et cela m'inquiète. Mon grand-père est mort bien avant ma naissance, et Gina s'est toujours montrée indépendante. Secrète aussi, disparaissant parfois des après-midi entières sans que l'on sache où elle se trouve. Mais son comportement cette semaine est différent. Elle est fuyante, tête en l'air, oubliant un sac de course au Franprix, égarant son portefeuille, ses clés. J'en suis venue à soupçonner un début d'Alzheimer, m'en suis ouverte à Olga, son envahissante meilleure amie qui habite l'étage du dessus mais qui passe le plus clair de son temps ici. Elle a ricané, m'a répondu qu'elle l'a trouvé un peu bizarre, oui, mais pas plus que d'habitude, et surtout pas plus que moi. Merci Olga, toujours aussi agréable. Je n'ai jamais compris comment ces deux-là avaient pu devenir inséparables, tant elles semblent n'avoir rien en commun. Bien sûr, toutes deux sont veuves depuis plusieurs décennies. Bien sûr, elles se sont serrées les coudes dans les moments difficiles, mais pour le reste, elles ne pourraient être plus différentes. Ma grand-mère est l'archétype de la mamma italienne, chaleureuse, bonne vivante, assumant ses rondeurs confortables, sa garde-robe de seconde main et le joyeux bordel de son salon. Olga, au contraire, est élancée, tirée à quatre épingles, pointue en matière de mode malgré son budget limité, férue de minimalisme. Gina est charmante, c'est certain. Mais je crois pouvoir dire que selon les critères de notre société actuelle, Olga est plus proche de ce que l'on appelle une belle femme. Mais qu'est-ce qu'elle peut m'agacer, avec ses petites phrases cassantes, ses avis tranchés sur à peu près tous les sujets, son air de bonne élève donneuse de leçons. Alors j'évite de trop m'en approcher, surtout en ce moment. Déjà 3 semaines que je suis ici, dans ce petit appartement aussi chargé en souvenirs qu'en bibelot et en poussière. En arrivant, le désordre m'a prise à la gorge. Moi, la contrôle freak, qui aime que tout soit parfaitement rangé, répertorié, classé. Peut-être mon seul point commun avec Olga. Chez ma grand-mère, je suis servie. Pourtant, curieusement, je me sens en sécurité ici. En accumulant les objets, ma grand-mère s'est forgé un cocon protecteur, un rempart familier contre le reste du monde. C'est sans doute ce que je suis venue chercher. Cette sensation d'être chez moi, à l'abri des tempêtes, à l'abri des douleurs. Je peine à mettre des mots sur ces dernières semaines. Elles m'ont laissé exsangue. Je vais avoir besoin de temps pour digérer ce que j'ai vécu, me reconstruire. Tout ça a été tellement dur. Pour ma grand-mère et tous les autres, c'est le décès de ma mère qui a précipité mon retour en Europe. Officiellement, je tente de me remettre de cette épreuve en reprenant contact avec de vieilles connaissances, en noyant ma tristesse dans une parenthèse estivale parisienne remplie de bruit, de fêtes et d'alcool, avant de retrouver le chemin de Singapour et de l'emploi dès l'automne. Tout cela est vrai, mais la réalité est bien plus complexe, plus douloureuse encore. La mort de ma mère m'a d'autant plus anéantie que je m'en sens responsable, d'une certaine façon. Je ne parviens pas à m'empêcher de penser que si nous n'avions pas eu cette conversation téléphonique si dure ce jour-là, elle n'aurait peut-être pas relâché son attention sur cette autoroute qu'elle connaissait si bien. Alors j'essaie de ne pas me laisser submerger par mes idées noires, mais j'ai de plus en plus de mal. Je suis pourtant une battante, une guerrière. L'aboutissement de l'ascenseur social pour cette lignée d'immigrés italiens et polonais ayant gravi les marches, génération après génération. Je me souviens des larmes de Gina lorsque je lui ai annoncé avoir réussi le concours d'entrée à HEC il y a 4 ans. Il y avait tout dans ses larmes. La fierté, le bonheur de ma réussite, bien sûr, surtout en cette année de disparition de mon père. Mais aussi le souvenir de ses renoncements et de ceux de ses parents. Gina, c'est le trait d'union entre les époques, celle qui a connu l'extrême pauvreté et plus de 80 ans plus tard, l'admission de sa petite fille dans les sphères prestigieuses de la société. J'ai toujours senti ce poids atavique, cette responsabilité, cette obligation de succès. Me montrer digne des sacrifices de mes ancêtres. Viser le sommet. Ne pas foutre ma vie en l'air. C'est ce que mes parents m'ont toujours répété. C'est ce que je me répète, inlassablement. Mais il y a cette date qui me hante et m'empêche d'avancer. Le 2 août, dans 23 jours exactement, quelle que soit ma décision, je serai libérée du poids le plus lourd que j'ai jamais eu à porter. Toute ma vie, je me suis appliquée à suivre ce que mes parents attendaient de moi, le chemin qu'ils avaient tracé pour moi. J'ai été une enfant sage, une adolescente studieuse, une étudiante brillante. Je me suis laissée porter sans rien choisir par moi-même. J'ai obtenu le meilleur lycée, la meilleure école, la meilleure spécialisation. Aujourd'hui, je découvre avec effroi et dans un grand désarroi que je ne me suis jamais posé cette simple question. Ce que la société ou mes parents considéraient comme meilleur, était-il vraiment le meilleur pour moi? Au fond, je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas qui je suis, qui je veux devenir. Je devrais passer mon temps à analyser la situation de manière rationnelle, à sonder le fond de mon cœur aussi, afin de prendre la meilleure décision pour moi. J'en suis incapable pour le moment. Alors en attendant, je m'emploie de toutes mes forces à occuper mon esprit, sans lui offrir le moindre répit. Car dès que je le laisse vagabonder, il m'entraîne sur une pente glissante, vers une forme d'incertitude, de détresse infinie, vers cette jeune femme sinistre et âcre qui n'est pas moi, que je veux voir disparaître. 18h. Comme chaque jour à la même heure depuis que je suis revenue, je me prépare à une nouvelle soirée. Je relève mes cheveux bruns en chignon travaillé négligé, dépose quelques paillettes sur mon décolleté, dissimule mes traits tirés à grand renfort de col et de fond de teint. Attirer l'attention sur mes atouts, camoufler le reste. Méthode éculée mais apparemment très efficace, vu la teneur des compliments que je reçois. Je n'ai aucune envie de séduire. Je veux juste passer le cap sans sombrer. Alors je sors, je bois, je danse jusqu'à m'étourdir. Dans cette salle de bain encombrée et vieillotte, trône un grand cadre photo. Un cliché délavé qui me déchire le cœur, où figurent ma grand-mère, mes parents et moi. Je ne sais pas pourquoi Gina s'inflige cette vision chaque jour. Moi, je ne peux pas. Alors je retourne le cadre, je prends une grande inspiration et tente de réguler mon émotion, avant que les larmes ne fassent couler le col. Gina est tout ce qui reste de ma famille. Ma grand-mère paternelle, ma nonna meravigliosa. Aussi à l'aise en cuisine que dans ses séances lunaires de yoga animées par Olga, avec la délicatesse d'un gardien de prison. Mes grands-parents maternels sont morts bien avant ma naissance, tout comme mon grand-père paternel, le mari de Gina. Alors je ne sais pas comment Gina a vécu ces épreuves. Mais le décès de mon père il y a 4 ans, je sais qu'il a été aussi douloureux pour elle que pour moi. Mes parents et moi vivions à Marseille à cette époque. Mon père voulait reposer auprès du sien, à Paris. Gina s'est donc chargée d'organiser l'enterrement. Ma mère était présente, bien sûr. Mais elles ne se sont jamais très bien entendues, toutes les deux. Gina a affronté seule ce deuil si terrible, celui de son propre enfant. Je ne suis pas allée aux funérailles. Je n'ai pas pu. Je ne suis venue me recueillir sur sa tombe que 6 mois plus tard, une fois le choc absorbé. C'est du moins ce que je pensais, avant de m'effondrer littéralement dans le cimetière du Père Lachaise. Il m'a fallu 6 mois pour intégrer que mon père n'était plus là. En classe prépa, je n'ai rien dit à personne du drame que je vivais. Je voulais être évaluée sans compassion ni traitement de faveur, me montrer forte. Ne rien laisser paraître pour n'avoir à affronter aucun jugement. Voilà la ligne de conduite que j'ai toujours suivie. Lorsque ma mère a épousé son Allemand, je suis partie en échange universitaire à Singapour, puis j'y suis restée pour mon stage de fin d'études. J'y ai été embauchée il y a 6 mois par une banque asiatique. Je détestais ce boulot, mais c'était bien payé, et ma mère était tellement fière. J'ai démissionné pour pouvoir prendre ce temps de reconstruction en France. Mon avenir est donc une page blanche à écrire. Ou plutôt, un gouffre vertigineux. 19h30. Je quitte l'appartement après avoir endossé la parfaite panoplie de la jeune Parisienne, bien décidée à profiter de cette belle soirée d'été. Juchée sur des talons aiguilles aussi hauts que ma jupe est courte. Ma grand-mère est probablement chez Olga. Je dépose un mot sur la table de la cuisine afin de la prévenir que je rentrerai tard dans la nuit. Je hèle un taxi et m'enfuis en direction d'une péniche sur la Seine, spot tendance du moment. Les 2 Lexomil que j'ai avalés font encore effet. Je me sens bien. Ensuite, c'est l'alcool et la danse qui prendront le relais. Puis la fatigue, et une nouvelle journée sera passée. Il restera 22 jours. 22h30. Appel d'un numéro de portable que je ne reconnais pas. Je l'envoie sur ma messagerie. Une fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e tentative, je me dis que j'ai sûrement affaire à un lourdeau à éconduire, puis bloqué. Je m'éloigne de mon groupe d'amis. Le terme de connaissance serait plus approprié à cet ensemble constitué d'anciens de mon école de commerce et de leurs collègues. Puis je décroche.
Allô, Chloé ?
Punaise, comment ça marche ce machin ? Je n'entends rien ! La voix de Cressel d'Olga vient de me déchirer un tympan. Olga, il y a beaucoup de bruit. Je suis avec des amis sur une péniche.
Je n'ai rien compris. Je ne sais pas pourquoi tu me parles de pénis. Ça me semble tout à fait inapproprié. Chloé, je suis...
J'ai envie de compléter sa phrase avec « dur de la feuille », mais je sens une fébrilité à l'autre bout du fil, alors je ne dis rien.
Chloé, je suis morte d'inquiétude. Gina est partie.
L'affolement dans la voix d'Olga percute de plein fouet mon questionnement sur le comportement récent de ma grand-mère et l'éventuelle dégradation de ses capacités cognitives. Mon sang se met à bouillonner, probablement sous l'effet combiné du stress, des anxiolytiques et des 2 mojitos déjà ingurgités. Je tente de la rassurer.
Olga, comme elle le répète souvent, elle est majeure et vaccinée, alors il ne faut pas s'inquiéter. Elle est sans doute chez une amie. Chloé, je crois que tu n'as pas compris.
Sa voix est nouée. C'est la première fois qu'Olga exprime une réelle émotion en ma présence.
Merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Respire, Chloé.
Olga, c'est impossible. Elle ne peut pas être bien loin.
Elle est vraiment partie, Chloé. J'étais inquiète de ne pas la voir revenir, alors puisque j'ai les clés de son appartement, je suis allée voir. J'ai trouvé le petit mot que tu lui as laissé sur la table et dans sa chambre. Mon Dieu, elle a perdu la raison.
Olga, qui avait-il dans sa chambre ?
Il y avait ces mots à elle. Je t'envoie la photo.
Une demi-seconde plus tard, je découvre incrédule l'écriture malhabile de Gina. Ma petite Chloé chérie, ma chère Olga, j'ai décidé de me lancer dans un voyage dans le temps. Je vais bientôt mourir et il y a des choses que je veux régler avant de passer l'arme à gauche. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse fort. Mes jambes se mettent à trembler. Je m'assieds sur le bord du quai afin de ne pas tomber, relis ce message une bonne dizaine de fois, décortiquant chaque mot. Quelle conclusion tirer de cette énigmatique missive ? Conclusion numéro 1. Ma grand-mère voyage dans le temps, elle va bientôt mourir, mais tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Conclusion numéro 2, corollaire de la première, elle a pété une durite. Conclusion numéro 3. Olga a raison de paniquer. C'est exactement ce que je suis en train de faire.